Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346.
Le Québec a enregistré 216 nouveaux cas en 24 heures selon les chiffres qui ont été publiés hier lundi. Une deuxième journée consécutive où on dépasse le cap des 200 cas. Est-ce qu'on se dirige directement vers la fameuse deuxième vague? On en discute avec la microbiologiste et infectiologue au CHUM, Cécile Tremblay. Bonjour Madame Tremblay. Dites-moi, comment percevez-vous la situation actuelle? Est-ce qu'on devrait être aux aguets ou si on a au contraire bien appris de la première vague et on est en mesure de courir après les cas et s'assurer de les isoler?
Ben, en fait, on devrait certainement être aux aguets. On a certainement appris des leçons de la première vague et il y a des choses qui ont été mises en place un petit peu partout, dans chaque milieu de travail, dans chaque établissement scolaire, pour essayer d'être en mesure de réagir rapidement. Ceci dit, tout dépend du volume de cas. Et s'il arrive trop de cas en même temps, ça va tester notre système de santé publique puis notre système de santé pour voir si on est capable de résister. Si on reste à des niveaux autour de 200 cas, je pense qu'on est capable de faire face à la chanson, mais si ça commence à progresser comme on voit dans les pays d'Europe, en France, en Espagne, en Angleterre, là, ça risque d'être un problématique.
Et clairement ici, la question, c'est la discipline des gens. Quand on voit des gens faire fi des recommandations de distanciation sociale, clairement, ces gens-là, là, il faut convaincre tout ce monde-là d'être discipliné comme on l'a été en avril et s'assurer de ne pas créer un embouteillage dans nos hôpitaux.
Absolument. Il faut que les gens se remettent en tête. Bon, il y a deux types de scénarios. Il y a des gens qui ont été très, très observants pendant toute cette période-là, puis un peu une fatigue là, de la discipline et puis tout ça, puis dans des moments comme la fin de semaine, la fête du travail, vont relaxer la discipline. Puis ça, ça peut causer des cas. Mais il y a des gens qui sont tout à fait insouciants de toute façon, et qui vont aller faire comme ce qui s'est passé à Québec, la personne qui était positive puis qui est allée dans un bar et puis qui en a contaminé d'autres. Donc, il faut que chacun se sensibilise à l'importance, parce que ça, c'est la réponse de chaque individu qui fait la réponse du groupe. Hein. C'est pas, on a beau mettre des mesures universelles, ça dépend de chacun d'entre nous pour que ça marche. Si chacun n'est pas responsable, ben on va avoir un grand problème.
Et c'est pour ça donc que l'alternative au confinement général, comme on a vécu, c'est une grande discipline et un suivi très précis des foyers d'éclosion. Que dire du raisonnement des tenanciers de bar, comme celui qu'on a entendu à Sherbrooke, qui dit « moi, je peux pas jouer à la police ». Au contraire, il faut qu'il joue à la police, sinon c'est comme une fête dans un sous-sol.
Oui, exactement. Il faut que, quand on dit que chacun se responsabilise, mais c'est à chaque niveau, les individus donnés, les clients doivent faire attention, mais aussi les tenanciers de bars ou d'autres établissements doivent mettre les mesures en place et les faire respecter. Et si les gens ne les respectent pas, ils doivent tout simplement leur dire qu'ils ne sont pas bienvenus dans leur établissement. Je pense qu'il y a assez de gens qui veulent respecter la discipline pour qu'ils aient une clientèle correcte, qui sont pas obligés d'accepter des gens qui ne veulent pas respecter la discipline. Alors, peut-être plus se poser la question, est-ce qu'ils veulent vraiment faire respecter la discipline?
Exactement.
Puis là, éventuellement, ben, faudra que le gouvernement intervienne.
Dites-moi, deux environnements bien distinctifs. Les résidences de personnes âgées, on a vu à Québec, par exemple, la résidence Place Alexandra, une autre qui est à Saint-Jérôme. Comment expliquer que on a finalement ici là, brisé la barrière, le barrage bâti après le grand traumatisme qu'on a eu dans les CHSLD?
Ben, c'est qu'on n'a pas bâti un si grand barrage que ça. On a identifié plusieurs problèmes, mais les solutions aux problèmes ne sont pas encore toutes en place. les préposés aux bénéficiaires qu'on a formés arrivent à peine cette semaine dans les établissements. Ils sont pas là. Donc, on est encore à court de personnel, à personnel réduit. On n'a pas encore changé la gouvernance dans ces milieux-là de soins-là. Bien qu'on ait identifié les bons problèmes et qu'il y avait des pistes de solutions qui ont été avancées, elles ne sont pas encore en place. Donc, ces milieux-là sont aussi à risque aujourd'hui qu'elles l'étaient au printemps dernier.
D'après vous, Madame Tremblay, si les chiffres continuent d'augmenter, quelles seront les prochaines étapes proposées par le ministre Dubé ou par le docteur Horacio Arruda?
Il faut identifier les sources les plus fréquentes de contamination. Il faut regarder dans quel secteur, bon, géographique, mais aussi dans quel secteur, mettons, de divertissement ou scolaire éventuellement, où ça se passe. Et cibler, y aller par des confinements sélectifs, disons. Puis je pense que c'est un peu ça qui va être annoncé cet après-midi, quoique je ne sais pas exactement le détail du plan, mais ça va être intéressant de suivre ça de près pour voir... parce qu'on ne veut pas retourner à un confinement global. C'est très, très mauvais pour tout le monde. Là. Tout le monde en convient. Mais à un moment donné, le confinement, c'est ce qui marche. Alors, je pense qu'il va falloir y aller de façon chirurgicale puis essayer d'identifier correctement là où la transmission se fait le plus.
Êtes-vous du même avis, Mme Tremblay, que les professeurs enseignent, les enseignants qui sont par contre souvent des suppléants, il manque encore quelques professeurs permanents dans certaines commissions scolaires, ou est-ce que ça se pourrait qu'il faudrait se méfier en particulier de ça, c'est-à-dire de s'assurer que si on a un suppléant, qu'on le garde à l'intérieur de la même école, qu'on évite les passages d'une école à l'autre?
Ben, je pense que ce serait une règle de base qui serait logique d'éviter que les gens se promènent d'un établissement à l'autre. Remarquez que ça a le moins d'impact. S'il n'y a pas d'éclosion dans une région donnée, ça a peu d'impact. Mais à partir du moment où il y a eu une éclosion, disons, dans une école, faudrait pas que les professeurs suppléants qui étaient dans cette école-là aillent dans une autre école avant d'avoir terminer la période de quarantaine. Oui. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à gérer là-dedans.
En terminant, Mme Tremblay, dites-moi, on évidemment, tout le monde nous fonde beaucoup d'espoir sur les perspectives qu'on trouve un vaccin sous peu. Quelle est votre impression par rapport à cette avalisation, aux phases de vérification auprès de la population? Actuellement, on accélère beaucoup le processus au niveau des vaccins. Est-ce que vous croyez que on coupe des coins ronds?
Ben là, présentement, ce qui est important, c'est qu'on termine nos phases 3, qui est la phase la plus importante pour évaluer si un vaccin est vraiment efficace et s'il est sécuritaire. Maintenant, il y a beaucoup de pression politique aux États-Unis de la part du président pour faire devancer les échéances et il pousse beaucoup les autorités réglementaires pour trouver un vaccin avant que ça soit vraiment testé définitivement. Mais il y a une réaction assez ferme là de la part de la communauté scientifique aux États-Unis puis partout ailleurs qui vont pas laisser passer ça. Maintenant, il se peut que un comité de surveillance, de monitoring des essais cliniques qui existe dans chaque essai clinique analyse des données intérimaires et voit qu'il y a une différence significative entre les deux groupes et décide de dire que c'est efficace. Ça, c'est possible. Mais ça n'arrivera pas avant qu'il y ait au moins un immense pourcentage des gens qui soient enrôlés dans l'essai clinique et qui aient reçu leurs deux doses de vaccin. Alors, moi, je pense qu'on va avoir des résultats d'ici la fin de l'année.
Ah oui.
Oui, probablement, si tout se passe bien. Et puis là, après ça, de le déployer, puis tout ça, ça va prendre encore quelques mois, certainement.
Et il y a des gens qui se disent, ben c'est ça, il y aura certainement des nations favorisées, et à l'intérieur de ces nations-là, des clientèles favorisées. Et il y en a d'autres, par contre, qui vont dire que, ben de toute façon, il y a des gens qui sont sceptiques devant les vaccins et qui craignent des effets secondaires relativement aux vaccins. Est-ce que vous croyez que une fois prêt, c'est pas donné que le vaccin va soudainement faire un effet bœuf sur la population. C'est pas nécessairement tout le monde qui l'aura en même temps.
Ben, en fait, c'est d'autant plus important qu'on fasse les essais cliniques correctement pour rassurer la population que le vaccin qui va être mis à la disposition des gens est tout à fait sécuritaire et efficace. Au Canada, on s'est bien positionné. Le gouvernement a déjà fait des contrats pour acheter des lots de vaccins. C'est important. c'est clair que tout le monde l'aura probablement pas en même temps, parce que juste la production, il n'y en aura pas assez pour tout le monde dans le premier temps. Donc, il va falloir prioriser des populations cibles, comme par exemple les travailleurs de la santé, les personnes âgées, s'il s'avère qu'ils ont une bonne réponse au vaccin. Donc, les gens plus vulnérables dans un premier temps, ça serait normal. Puis ensuite, on va vouloir le rendre largement disponible à toute la population, parce que pour créer cette fameuse immunité de masse, il faut quand même qu'il y ait un grand pourcentage de la population qui y adhère. Mais moi, j'ai confiance que les gens vont tellement vouloir retourner à la normale qu'ils vont adhérer à la prise d'un vaccin.
Ben, vous vous faites bien encourageante et espérons donc qu'on aura ça plus tôt que tard. Merci beaucoup, Mme Tremblay.
Ça me fait plaisir.
Bonne journée. Cécile Tremblay, qui est microbiologiste et infectiologue au CHUM.